La deuxième session de la Convention citoyenne pour le climat, elle avait lieu ce week-end au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et vous avez assisté à l'un des ateliers.
C'était le match à ne pas rater, Angleterre-Nouvelle-Zélande, demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Je n'ai pas réalisé la semaine dernière, en m'inscrivant à un des ateliers de la Convention citoyenne pour le climat, que la rencontre aurait lieu au même moment, me privant du combat de l'année. À vrai dire, je n'ai pas regretté. J'avais pourtant quelques préventions et la plupart persistent à propos de cette convention. Non pas sur le principe qu'une assemblée citoyenne issue du tirage au sort soit chargée de réfléchir aux moyens d'endiguer le réchauffement climatique et de le faire dans un esprit de justice sociale, comme le précise son mandat. Voilà qui a belle allure. Mais le mandat, justement, est démesuré. On demande à 150 personnes, dont ce n'est ni le métier ni la compétence, non seulement de réfléchir, mais encore de définir les mesures à prendre pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Énorme chantier, responsabilité écrasante. Dans un système politique qui fonctionne correctement, n'est-ce pas au Parlement, réuni pourquoi pas en états généraux, puisque l'affaire est d'importance, qu'il aurait fallu confier une telle tâche. On peut par ailleurs douter de la sincérité du chef de l'exécutif quand il promet que les propositions de la Convention seront soumises sans filtre, soit à référendum, soit au vote du Parlement, soit à application réglementaire directe. Que se passera-t-il si ces propositions remettent en cause les orientations de la politique de gouvernement? Et si elles les confirment, comment ne pas laisser penser que les travaux auront été téléguidés pour servir les intérêts du pouvoir? Une auditrice m'a d'ailleurs transmis plusieurs courriers qu'elle a adressés aux membres de la Convention ainsi qu'à ceux du comité de gouvernance. Elle suggère au premier de ne pas hésiter, s'ils considèrent qu'ils n'ont eu ni le temps ni la possibilité d'élaborer leur choix, de rendre comme conclusion de refaire une convention dont ils fixent eux-mêmes les modalités de travail. On pourrait même les imaginer refusant de quitter le CESE autrement que par la force des baïonnettes. Oui, car il y a bien quelque chose de révolutionnaire dans cette assemblée citoyenne qui, pour l'instant, déjoue assez bien les réserves exprimées parce qu'elle propose un exercice rafraîchissant de démocratie participative avec des acteurs qui n'ont rien de militant. J'ai pu en juger sur pièce en assistant samedi matin au Conseil économique, social et environnemental à l'atelier « Travailler et produire », un des cinq proposés pour cette deuxième session. Il s'agissait de se fondre dans le décor, de ne pas troubler le dialogue entre les quatre experts invités pour l'occasion et une trentaine de membres de la Convention. En 1h30 environ, il y fut question de prix du carbone et de la façon de le fixer, de la loi de l'offre et de la demande, de la nécessaire réindustrialisation du territoire, de l'orientation des dividendes vers la recherche et de l'impact du changement climatique sur l'arborescence des métiers. Vint ensuite le temps de la restitution, dans l'hémicycle, rien de spectaculaire, et c'est justement ça qui est passionnant.
Vous nous indiquez donc les pistes de travail, juste l'intitulé de la piste, hein, sans trop développer. Allez-y.
Bien, donc les premières questions qu'on s'est posées ce matin, et cet après-midi plus exactement, dans le groupe Travailler et produire, c'est au travers des interventions de toute la matinée, c'est comment faire tous ensemble. En fait, dit autrement, on pourrait dire comment mobiliser et lier tous les acteurs concernés par la transition écologique.
Je vous encourage vivement à regarder ces restitutions sur le site de la Convention. Si j'étais anthropologue, j'y consacrerais une thèse. On y voit en temps réel, presque au ralenti, se forger des décisions dans le débat et la concertation, si loin des usines à clash que sont devenues certaines chaînes de télévision, à qui on pourrait d'ailleurs suggérer, elles qui semblent ne plus savoir comment remplir leur temps d'antenne, d'en retransmettre les temps forts en direct.